J'ai retenu pour ce culte de Pentecôte deux extraits de l'évangile de Luc au chapitre 10, les versets 1 à 9 et les versets 17 à 24. Après cela, le Seigneur en désigna encore 70 autres et les envoya devant lui, deux à deux, dans toute ville et tout endroit où lui-même devait aller. Il leur disait, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord, « Que la paix soit sur cette maison. » Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là. Mangez et buvez ce qui s'y trouve, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qu'on vous présentera. Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Les 70 revinrent avec joie et dirent, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Il leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Oui, Père, parce que tel a été ton dessein bienveillant. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en privé, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur ma route. Et je vous propose de chanter maintenant le cantique 178, les strophes 1, 3 et 6, le cantique 178. Père, ta parole vient à notre rencontre et elle est bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. Qu'elle vive en nous par ton esprit, qu'elle nourrisse notre foi, qu'elle soit lumière sur nos sentiers et promesse dans notre vie. Que notre cœur reçoive l'espérance de l'Évangile et battent au rythme de ta joie. Tout au long de l'histoire de l'Église, il faut bien reconnaître qu'on s'est beaucoup querellé, beaucoup disputé au sujet de l'Esprit-Saint, sur des questions extrêmement variées. Quelle est la nature de l'Esprit, par exemple ? Est-il de nature divine ou est-il créé ? Il a fallu attendre le IVe siècle et le Concile de Constantinople en 381 pour qu'il soit acquis dans l'Église que l'Esprit est Dieu, qu'il est Seigneur et qu'il donne la vie. On s'est beaucoup disputé également sur son origine. Vient-il de Dieu le Père ou est-il donné par le Fils ? On s'est également demandé si l'Esprit était une personne ou une énergie. Autant de questions qui ont suscité parmi les chrétiens de profondes divisions, dont certaines ne sont toujours pas dépassées. C'est sur la question de l'Esprit-Saint que Rome et que Byzance se sont éloignés. Et aujourd'hui encore, c'est la question de l'Esprit-Saint qui empêche toute avancée écuménique entre l'orthodoxie et les autres confessions chrétiennes. Et aujourd'hui encore, même dans nos églises, dans notre monde de la Réforme, dès qu'on parle de pentecôtisme, de vie charismatique, de baptême dans l'esprit, eh bien, les échanges peuvent très vite se crisper. Les uns dénoncent des illuminés et les autres font remarquer que nous sommes des inconvertis. Ça m'est arrivé une fois de me faire traiter ainsi dans une convention charismatique. Ce qui finalement est assez navrant, puisque si nous en croyons l'apôtre Paul, le fruit de l'esprit serait amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur et maîtrise de soi. Parler entre nous de l'esprit et sous la motion de l'esprit devrait nous faire goûter que le royaume est avant tout une affaire de justice et de paix et de joie. Or, parler de l'esprit entre chrétiens aboutit parfois à tout le contraire. Et je me dis parfois qu'on gagnerait peut-être à faire silence sur l'esprit. Mais en ce jour de la Pentecôte, je suis bien obligé de vous dire un certain nombre de choses sur le Saint-Esprit. En tout cas, ceux qui se disputent à son sujet devraient se souvenir ce que Basile de Césarée, un des pères de l'Église les plus prestigieux, écrivait au IVe siècle dans son traité du Saint-Esprit, qui est un ouvrage majeur dans le domaine de la pneumatologie. Il écrivait « Il nous est impossible de donner une définition précise de l'Esprit-Saint ». Eh oui, impossible. Impossible, car l'Esprit, c'est évident, est insaisissable, incompréhensible, indéfinissable. Un esprit, c'est comme du vent. On ne le voit pas, l'esprit ne se met pas en avant, il ne se donne pas à voir. Au contraire, sans exhiber, l'esprit révèle, il met en lumière, il s'efface pour que d'autres que lui entrent en scène. Dans le même ordre d'idées, l'esprit ne parle pas, il n'élève pas la voix. En revanche, il fait parler, il inspire, il anime. C'est un souffleur d'évangile. Et alors qu'on peut se faire une idée, une représentation de ce qu'est un père ou un fils, en revanche, il est impossible d'enfermer l'esprit dans une image ou dans un concept. Mais s'il est impossible de définir l'esprit, on peut peut-être néanmoins tenter d'en parler avec simplicité. Paul Tillich a écrit que l'Esprit, c'est Dieu lui-même en tant qu'il est présent. Présent en nous, présent dans les groupes humains, présent dans le monde. Oui, l'Esprit, c'est une présence, c'est une actualité de Dieu. Ce n'est pas un simple souvenir, ce n'est pas non plus qu'une promesse, c'est une présence vivante, là où est l'Esprit, là et la vie. C'est une présence vivante, c'est une présence vivifiante qui inspire et qui met en mouvement. Il nous éclaire, il nous dynamise, il suscite en nous des projets et il nous donne la force de les réaliser. Oui, l'Esprit, quand on parle de lui, il est du côté du mouvement, de la créativité, de la liberté. Et c'est pourquoi l'Esprit nous permet de faire l'expérience du Dieu vivant. On ne peut pas parler de l'Esprit-Saint sans parler de l'expérience spirituelle, de l'expérience chrétienne. Vivre une relation à Dieu en sa présence, n'est-ce pas l'expérience qui est au cœur du croyant? Et la Bible n'arrête pas de nous rapporter des expériences humaines qui manifestent l'intervention de Dieu et à travers lesquelles Dieu a parlé à des êtres humains. Alors bien sûr, quand on parle d'expérience, les religieux, nous autres, les pasteurs, nous avons tendance à restreindre l'accueil de l'esprit à ce qui relève finalement de l'univers religieux. À nous entendre parler, il semble parfois que l'esprit de Dieu, c'est finalement seulement l'esprit de la foi et de l'Église, et que l'expérience spirituelle, c'est finalement l'expérience religieuse. Or, frères et sœurs, si nous reconnaissons l'Esprit comme Esprit créateur, nous devons admettre qu'il est à l'œuvre dans le monde, dans le cœur de tous les hommes, et qu'il ne se laisse pas enfermer dans des catégories religieuses ou confessionnelles. L'Esprit Saint remplit l'univers, il remplit la vie de tout ce qui est vivant. Et peut-être qu'il ne s'agit pas pour nous de sanctifier une vie qui ne serait pas encore sainte. Il s'agit de sanctifier une vie qu'il est déjà. Alors, Alors par expérience spirituelle, j'avance qu'il s'agit d'apprendre à voir et à aimer la vie telle que Dieu la veut et l'aime, c'est-à-dire une vie bonne, juste et belle. L'expérience spirituelle, c'est alors l'expérience de Dieu au cœur de la vie, au cœur de toute la vie, dans toutes ses dimensions. Alors, quels pourraient être les traits dominants de l'expérience spirituelle à la lumière de l'Évangile ? Je retiendrai 4 aspects. Premier trait de l'expérience spirituelle, c'est la joie d'être un vivant. Oui, la joie. Cette joie qui donne des ailes, qui donne l'envie de chanter, de sourire, de danser, d'embrasser. On le sait bien, la joie, elle est par essence, par définition, l'émotion de la vitalité. Et l'évangéliste Luc souligne que les 72 disciples sont joyeux alors qu'ils sont de retour auprès du Christ, mission accomplie. Et Luc ajoute également que Jésus lui-même, tout à coup, exulte sous l'action de l'Esprit-Saint. Exulter, c'est être transporté d'une joie extrême qu'on ne peut contenir ni dissimuler. Jésus est joyeux, les disciples sont joyeux. Le premier effet du passage de l'Esprit dans une vie, c'est la joie. C'est une certaine légèreté de l'être. Oui, en cet instant précis, Jésus et ses disciples sont dans une attitude de réceptivité absolue, dans une ouverture totale à l'esprit de vie. À l'inverse, frères et sœurs, quand l'esprit n'est pas accueilli, les personnes et le monde sont dans la tristesse. Quand un être humain centre sa vie sur lui-même, il s'enferme dans une prison et se prive d'une dimension essentielle à son être. Combien d'hommes et de femmes tombent dans la dépression, dans le mal-être, dans le marasme, parce qu'ils se meurent, au sens fort du mot, de ne pouvoir briser la gangue qui les empêche d'entrer en relation avec d'autres, avec l'autre. L'expérience spirituelle, c'est peut-être avant tout l'expérience de la sortie de la tristesse et de la mort, l'expérience du retour à la joie et à la vie. Et ce n'est pas pour rien que les récits de résurrection nous parlent avant toute chose de tombeaux ouverts et de pierres roulées. Le travail de l'esprit, c'est d'ouvrir des brèches, de frayer des passages. Alors pour certains, tel Paul sur le chemin de Damas, c'est une expérience fulgurante. Pour beaucoup d'autres, c'est une quête ou une reconquête progressive, jour après jour. En tout cas, celui qui s'ouvre à l'esprit et accepte de l'accueillir, ou celui qui bénéficie de la grâce immense d'une irruption gratuite de l'esprit en sa vie, eh bien, ceux-là expérimentent une joie et une paix profonde, une douceur de vivre jamais goûtée, car l'esprit fait ainsi de nous des vivants. Ou alors, bien sûr, cette expérience, elle est forcément mise à l'épreuve. À certains moments, cette joie d'être vivant, elle court le risque d'être submergée, engloutie. Cette joie dont le Christ nous a assuré que nul ne pourrait nous la ravir, il arrive, oui, qu'elle soit mise en péril. Oui, il faut savoir que nous portons ce trésor de la joie de Dieu dans le vase d'argile de notre humaine précarité. Et à certaines heures, il importe de se dire et de se répéter avec le psalmiste que ceux qui sèment dans les larmes finissent par moissonner avec des chants de joie. La joie, ça va et ça vient. Il nous faut attendre avec patience. Voilà, premier critère de l'expérience spirituelle, la joie d'être vivant. Deuxième aspect, une intelligence nouvelle, un regard renouvelé ou nouveau sur les êtres et sur les choses. Les disciples voient, nous dit l'Évangile. Il voit que les forces du mal sont endiguées. Et Jésus voit, lui aussi. Il voit ce que ne voient pas ceux qui ne regardent pas plus loin que le bout de leur nez. Ils voient que Dieu, son Père, est vainqueur. Le projet de Dieu est accompli. Jésus voit le terme de l'histoire. Il l'anticipe. Le Satan tombe comme l'éclair. Les forces du mal sont terrassées. Et il voit le nom des élus inscrit dans les cieux. Oui, le projet de Dieu est un projet de réconciliation et de communion universelle. Jésus voit que l'amour l'a emporté sur la mort. Il est certain de la victoire finale de Dieu. Et il voit encore l'œuvre de Dieu en cours de réalisation. Il voit le ministère fécond de ses disciples et il se réjouit de leur joie. Le grand jour est arrivé, Dieu est à l'œuvre. Eh bien, l'Esprit Saint, il a aussi pour mission de nous faire entrer dans l'intelligence des choses qui plaisent à Dieu. Il nous fait voir les choses comme le Christ les voit. C'est bien ce qui s'est passé à la Pentecôte. Pendant leur vie aux côtés du Maître, les disciples avaient souvent, trop souvent, une compréhension limitée de ses gestes et de ses paroles. Mais avec la Pentecôte, avec le don de l'Esprit, ils perçoivent le sens caché de l'Écriture et ils reçoivent une force tranquille pour annoncer que Christ est ressuscité, alors qu'auparavant ils étaient enfermés, morts de peur, dans le cénacle. Alors, bien sûr, dans la vie, on ne peut voir que les ombres et les échecs, les ratages et les dérapages, et Dieu sait qu'il y en a. Mais l'Esprit, lui, nous fait voir la réalité dans la lumière de Dieu. Les faits, ils restent les mêmes, mais les yeux de la foi les replacent dans un cadre plus large, plus profond, un cadre qui est celui de l'émergence du royaume. D'ailleurs, à ce moment-là, le Christ proclame une béatitude et elle est pour nous, aujourd'hui, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Oui, heureux ceux qui savent voir les choses dans la clarté de Dieu, leur cœur et leur intelligence en seront illuminés. Et l'expérience spirituelle s'est sans doute appliquée, cette grille de lecture offerte par Dieu, à la réalité complexe et troublée de notre monde. Troisième point, paradoxalement lié au précédent. L'ouverture à l'esprit, qui renouvelle notre intelligence et qui nous fait voir le fond des choses, fait voir le dessous des cartes en quelque sorte, il nous fait aussi prendre en compte le réel. L'expérience spirituelle, elle conduit à reconnaître le tragique de l'existence et la souffrance des hommes. L'expérience spirituelle, elle ne ferme les yeux devant aucune douleur ni aucune injustice. Elle prend tout, elle retient tout. Et voilà un critère d'une grande importance à l'heure où fleurissent précisément tant de spiritualités complètement désincarnées. L'esprit n'est pas donné pour nous faire planer. L'esprit ne souffle pas pour emmener ses fidèles dans des rêveries cosmiques, des mondes plus ou moins magiques, des paradis artificiel. Non, l'Esprit Saint est le maître du réel. Car vous l'avez entendu, Jésus confronte ses disciples à la réalité. Il les envoie dans un monde qui grouille de serpents et de scorpions. Il les envoie en mission, non pas comme des troubadours de l'insouciance, des ménestrels de l'amour et de l'eau fraîche, non. Il les envoie comme des ouvriers qui vont se donner de la peine. Ils vont enseigner des esprits lents à croire et sans intelligence. Ils vont apporter des soins à ceux qui souffrent. Ils vont tenter, avec la force qu'ils ont, de repousser les forces du mal. Jésus sait bien que ceux qu'il appelle et envoie rencontreront d'immenses difficultés. Ils n'auront pas forcément les moyens de leur mission. Ils auront faim, ils auront soif, ils vont en baver. Ils feront l'expérience de l'hostilité et du rejet. Jésus va même jusqu'à dire qu'ils seront comme des agneaux au milieu des loups. Parfois, on leur fera bon accueil, et à d'autres moments, on leur claquera la porte au nez. Oui, l'Esprit ne nous conduit que sur les voies concrètes et réelles de la vraie vie, loin des pays de cocagne et des mondes imaginaires. Oui, l'Esprit, il nous amène à dire oui à la vie telle qu'elle est. Et ce oui au réel est un passage obligé pour goûter la vie dans ce qu'elle peut avoir de plus âpre, mais aussi de plus savoureux. Car ensuite, l'enracinement dans la réalité, l'incarnation, elle conduit ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu à vouloir transformer ce monde, à vouloir travailler le réel pour qu'il soit un peu plus conforme aux rêves de Dieu. Et en ce sens, l'Esprit est un esprit d'entreprise. Je l'ai dit, il ne nous installe pas dans la passivité, il nous suscite en nous des énergies pour le travail, pour l'œuvre, pour l'action. Quatrième et dernier critère de l'expérience spirituelle, la remise de soi dans la confiance. Cette remise de soi, cette confiance, c'est l'attitude des disciples qui viennent rendre compte de leur activité à Jésus et qui s'émerveillent du fruit qui a été produit. C'est aussi l'attitude profonde du Christ qui loue ce Dieu qu'il appelle son Père. Oui, Jésus rend grâce à son Dieu. Il remercie son Père de s'être révélé aux petits et il remercie son Père pour la communion qui existe entre deux. Jésus, finalement, il sait sur qui il peut compter. Il n'est pas seul dans la vie. En cet instant pressant, il en fait l'expérience et pour lui, c'est bouleversant. Sa paix et sa joie qui s'expriment dans la prière rapportée par l'évangéliste Luc naissent de cet accord profond avec son Dieu. Il y a en Jésus à ce moment-là une plénitude. Il prend conscience qu'un autre se communique à lui et cela aussi, c'est l'expérience spirituelle. C'est découvrir que la vie n'est pas forcément un casse-tête ou un parcours d'obstacles que je devrais m'efforcer de mener en y mettant toute mon énergie, toutes mes ressources. Ce que Jésus nous souffle, c'est que la vie est avant tout confiance en celui qui la mène et qui veut la faire reposer sur des prés d'herbes fraîches. Oui, Jésus me souffle que Dieu est comme un berger, que grâce à lui, je ne manquerai de rien, parce que justement, je ne suis plus le propriétaire anxieux de mon existence. Et ce que nous dit Jésus également, c'est que Dieu place sur notre route des parents, des maîtres, des amis, des compagnons et des frères qui sont autant de médiateurs de cette confiance. Alors il est vrai que l'entrée en relation avec autrui est toujours une prise de risque, le risque de la déception. Mais vivre dans la confiance, c'est encore accepter d'être déçu et c'est savoir dépasser ce genre de déception. Vivre cette confiance en soi, en les autres, en Dieu, c'est une question de survie, une question de vie. Alors voilà, frères et sœurs, quatre aspects de l'expérience spirituelle. L'amour de la vie, un regard neuf sur le monde, l'acceptation du principe de réalité, la confiance. Tout cela contre l'instinct de mort, contre l'habitude, contre l'idéalisation et la méfiance. On peut confesser la foi et ne rien vivre de tout cela. Et on peut aussi vivre tout cela sans jamais confesser la foi. De la sorte, faire l'expérience spirituelle. C'est finalement être présent à ce que l'on est en train de faire, attentif aux autres, curieux et ouvert à ce qui nous entoure, ce qui nous touche, ce qui nous affecte. C'est finalement discerner ce qui est bon pour nous. C'est s'accepter soi-même, s'aimer un peu en réalisant que nous sommes appelés à une vie libre et responsable sans pour autant être accablés par cette responsabilité. Car dans cette expérience, voyez-vous, finalement, nous reconnaissons que notre vie est renvoyée à quelque chose qui la dépasse. Bien évidemment, on ne décrète pas la joie et la confiance. On n'en est pas les maîtres et les ordonnateurs. En accueillant l'Esprit, nous reconnaissons que nous recevons d'ailleurs et d'un autre la lumière qui éclaire notre vie et la force qui l'anime. Oui, cette lumière et cette force, nous ne les produisons pas, nous ne les possédons pas, nous n'en sommes ni les maîtres, ni les propriétaires. Paradoxalement, nous sommes ainsi débarrassés du fardeau de, de tout contrôler, de tout posséder, de tout maîtriser. Nous sommes invités à l'action libre et créatrice. Et en même temps, nous reconnaissons que c'est l'Esprit qui en nous porte son fruit. Oui, pour une vie libre et responsable, pour une vie joyeuse et confiante. Alors cet Esprit que nous entendons, en ce jour de fête, il nous reste à l'invoquer, qu'il vienne en nos cœurs, et alors nous pourrons naître ou renaître à une vie nouvelle, pour aujourd'hui et pour demain, à la grâce de Dieu. Et nous découvrirons alors, et je conclurai ainsi, que nous ne sommes pas des êtres humains appelés à l'expérience spirituelle, mais qu'au contraire, nous sommes des êtres spirituels appelés à une expérience humaine, passionnément humaine, véritablement humaine. Amen.